ce soir, finale en apothéose avec notre héros de la semaine. Si vous n'avez jamais vu un concert des Talking Heads, eh bien imaginez qu'on en a rêvé un pour vous. Take Me to the River, un titre qui a représenté un premier tournant dans la jeune carrière, alors à peine entamée, des Talking Heads, auxquels on consacre ce soir le dernier Very Good Trip de la semaine. En 1978, les Talking Heads publiaient leur deuxième album, intitulé assez drôlement More Songs About Buildings and Food, encore des chansons sur les immeubles et la nourriture, une formule qu'avait utilisée un critique un peu moqueur pour décrire les thèmes incongrus qui figuraient dans leur premier disque simplement intitulé Talking Heads 77, Talking Heads 1977. Take Me to the River n'est pas une composition du groupe. À l'origine, c'est une chanson créée en 1974 par un des plus grands, sinon même le plus grand, chanteur de soul, encore vivant aujourd'hui d'ailleurs, Al Green. Une chanson qui plonge au cœur de la dualité qui traverse la musique soul. D'un côté, l'appétit très terrestre pour la chair, la sexualité, et de l'autre, une soif de pureté, d'élévation et de spiritualité. Le narrateur de cette chanson, Take Me to the River, donc, est incarné par Al Green, et le personnage est emporté par sa passion pour une adolescente de 16 ans. Et en même temps, il rêve de quoi ? Eh bien, il rêve de se plonger dans l'eau purifiante d'une rivière, dans l'espoir d'être régénéré pour renaître comme un être immaculé, parfaitement pur. Eh bien, c'est presque à la lettre, d'une manière assez tragique, ce qui allait arriver un an plus tard à Al Green, je vous raconte en deux mots. En 1975, Al Green s'est violemment disputé avec sa fiancée. Il a alors décidé de se faire couler un bain pour se calmer. Bon, jusque-là, tout est normal. Seulement, alors qu'il est plongé dedans, la jeune femme déboule dans la salle de bain et fait quoi ? Elle lui verse sur la tête une casserole pleine de gruau d'avoine bouillant. Après quoi, se saisissant de larmes appartenant au chanteur, elle fait quoi ? Elle se tire une balle dans la tête. Alors pour Al Green, ça a été comme un signe surnaturel. Il fallait qu'il abandonne la musique séculière et se mette au service de Dieu. Il s'est alors fait ordonner pasteur. Il a acheté un temple baptiste à Memphis et il s'est consacré exclusivement à la parole évangélique, au gospel. Et ça pendant de très nombreuses années. Alors il n'est pas surprenant que David Byrne, qui heureusement pour lui n'a pas vécu un tel événement atroce, se soit reconnu dans cette dualité, dans ces déchirements mis en scène dans les chansons soul, et qu'il ait aussi incarné dans ces chansons des personnages de prêcheurs ou d'évangélistes. Ce qui était surprenant dans le cas des Talking Heads, hein, ce groupe dont les membres s'étaient rencontrés dans un institut des beaux-arts de Providence, hein, dans le petit état de Rhode Island, au nord de la côte Est, avant de se lancer dès l'année 75 à New York, l'étonnant, oui, c'est que David Byrne, dans sa façon de chanter, comme dans son comportement scénique, est incarné un personnage névrosé, horriblement mal dans sa peau, mal à l'aise, et en proie à une énergie mécanique, spasmodique, ce qui faisait un tableau très dérangeant. Et puis soudain, surgissait cette chanson, Take Me to the River, au rythme sensuel, alangui, dont les paroles n'étaient pas de lui, et où il s'ouvrait soudain de son aspiration à la délivrance et au bonheur. Une chanson qui, au fond, portait en elle toute l'aspiration des Talking Heads à la lumière. Il y a eu ainsi une évolution progressive chez David Byrne. Alors en 78, quand il ne chantait pas ce titre tout à fait à part de Al Green, eh bien il était capable d'écrire une chanson qui s'appelait I'm Not in Love. Et puis en 5 ans, eh bien tout a changé. Il est parvenu à écrire une vraie chanson d'amour qui s'appelait Girlfriend is Better. Elle figure dans un album des Talking Heads enregistré en 1983 aux Bahamas, Speaking in Tongues. La chanson, c'est Girlfriend is Better.
Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Seems like the world knows nothing at all.
La guitare de Adrian Belew pour conclure en apothéose ce titre des Talking Heads de Great Curve, extrait de leur album le plus connu, enfin le plus populaire en France en tout cas, Remain in Light. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans l'émission de lundi dernier. C'est un album que les Talking Heads ont publié à la fin de l'année 1980 et qui a révolutionné par son approche les techniques d'enregistrement inédites mises au point par l'anglais Brian Eno, sa vision artistique, tout ce qu'on attendait jusque-là d'un groupe de rock, au point que certains amateurs de New Wave, dont j'étais, y ont un peu perdu leur latin. Et oui, Eno, inspiré par ses expériences de musique dite ambient, de musique d'ambiance conceptuelle, hein, si vous préférez, avait créé une espèce de papier peint sonore avec ses trames répétitives de synthétiseurs et de percussions et ses chœurs obsédants où la notion de chanson se diluait, on pourrait même dire disparaissait, dans une espèce de fluide hypnotique. Et le côté sarcastique et acéré des Talking Heads était pour ainsi dire noyé sous une euphorie qui était un peu déconcertante, hein, vu le style initial du groupe. Ah oui, alors je vous parlais de Adrian Belew. Je rappelle juste que ce guitariste aussi virtuose qu'inventif, passé par Nashville et le Midwest américain, a joué un rôle clé durant cette période, hein, début des années 70, fin des années 70, début des années 80. Découvert très jeune par Frank Zappa, Belew a marqué de sa présence la tournée Heroes David Bowie, c'était en 78, et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait remarquer par Brian Eno, qui l'a conseillé aux Talking Heads pour l'enregistrement de l'album Remain in Light. On a ensuite retrouvé Belew dans une nouvelle incarnation du groupe King Crimson, créé en 1981 à New York par le guitariste anglais Robert Fripp. Tout de suite, une des chansons les plus joyeuses des Talking Heads au parfum des Caraïbes. Elle s'appelle This Must Be The Place, entre parenthèses Naive Melody, et elle figure dans leur cinquième album, enfin le cinquième si on compte pas les lives, paru en 83, Speaking in Tongues.
I'm
Road to Nowhere, une chanson des Talking Heads qui figurait dans un album paru en 1985 et qui s'appelait Little Creatures. Un disque enregistré à New York, tout comme au début du groupe, et qui a marqué un retour à la simplicité des premières années. Quand on écoute ces chœurs, cet accordéon, ce rythme un peu chaloupé, on ne peut s'empêcher de penser à l'album Graceland de Paul Simon, que celui-ci avait enregistré en partie avec des musiciens sud-africains, mais aussi louisianais et latino-américains. Un disque qui est paru l'année suivante, en 1986, et qui a été un jalon très important dans l'histoire de la world music. Alors, en cette période du milieu des années 80, les Talking Heads ont conservé une grande popularité et surtout un immense prestige. À la manière de David Bowie dans les années 70, David Byrne et son groupe ont toujours cherché à se réinventer à chaque album et surtout à donner des spectacles ne ressemblant à rien de ce qui se faisait dans le rock, aussi bien le rock ancien que celui de l'après-punk. Ils ont d'ailleurs été pionniers en la matière puisque en 1984, ils ont été les premiers à élaborer méticuleusement un concert destiné à être filmé. C'est Jonathan Demme, le réalisateur de, entre autres, Le Silence des Agneaux, qui a réalisé ce documentaire d'un genre particulier qui s'appelait Stop Making Sense. Alors c'est intéressant à souligner parce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui cette dimension visuelle très particulière chez les Talking Heads. Dès le début, le groupe avait adopté une sorte de ligne esthétique très particulière. Je cite les paroles de David Byrne à l'époque. « Pas de mouvement ni de pose rock, pas d'emphase ni de dramatisation, pas de coiffure rock, pas de lumière rock et pas de baratin sur scène. » Dès le début, d'ailleurs, en 77, leur anti-image était une provocation. Sur la pochette de leur premier album, on voyait les membres du groupe en polo et chemisette coiffés comme monsieur et madame tout le monde, on aurait dit une bande d'employés de banque des années 60 en week-end. Et quand David Byrne, qui se présentait sous l'apparence de monsieur normal, cachant un abîme de folie et de déviance, ça créait un effet détonnant, ça ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Surtout quand il chantait Psycho Killer, tueur psychopathe, Psycho Killer, qu'est-ce que c'est, hein, en français dans le texte, c'était comme une scène de film ou de théâtre. La version que je vous propose de ce classique du groupe, sans doute la chanson la plus connue des Talking Heads, est extraite du spectacle dont je vous ai parlé, Stop Making Sense.
Very Good Trip sur France Inter.
Tastes real good. They're going in.
The Big Country, une des chansons les plus mémorables de la première période des Talking Heads. Elle figure dans le deuxième album du groupe, More Songs About Buildings and Food, sorti en 78. Et elle décrit d'une façon saisissante une banlieue résidentielle ordinaire où rien ne se passe à part des choses sympathiques. Et c'est précisément ce côté lisse où le non-dit affleure qui suscite un malaise indicible. Je suppose, dit le narrateur incarné par David Byrne, que c'est sain, je suppose que l'air est propre, je suppose que ces gens s'amusent avec leurs amis et leurs voisins. Regardez toute cette cuisine et toute cette nourriture, regardez-les manger, je suppose que ça a l'air vraiment bon. Et puis, il lâche cette formule qui condense l'angoisse existentielle qui, pour lui, suinte de ce tableau sympathique, je ne vivrais pas là-dedans, même si on me payait pour ça. Ce que, certainement, a dû lâcher à ses parents à un moment l'adolescent David Byrne, au temps où il habitait une banlieue résidentielle de la ville de Baltimore, dans le Maryland. C'est là qu'habitaient ses parents, d'origine écossaise. Le père était informaticien chez Westinghouse et la mère était femme au foyer. Alors, il y a des artistes qui donnent des clés quand ils parlent de leur enfance ou de leur adolescence. Ce n'est pas vraiment le cas de David Byrne qui, lors d'un entretien pour les Inrecuptibles, il y a bien longtemps, c'était en 1989, disait ceci, qui reste assez flou et énigmatique, bien dans la nature du personnage. Notre accent était bizarre, notre nourriture était différente, notre comportement était différent, nous étions spéciaux dans notre quartier. Il n'en a jamais dit vraiment davantage. Un des refrains les plus entêtants de la discographie des Talking Heads, Heaven, extrait du troisième album du groupe sorti en 79, Fear of Music, réalisé par Brian Eno. Un refrain qui dit « Le paradis est un endroit où jamais rien ne se passe ». Ce qui est une définition du nirvana des bouddhistes, hein, l'ultime stade où cesse le cycle douloureux des réincarnations et où l'on atteint la sérénité ultime parce qu'on est comme vidé de soi. Pour se quitter, une des chansons les plus joyeuses des Talking Heads, elle s'appelle Wild Wild Life et elle figure dans un album intitulé True Stories, sorti en 1986. Alors l'histoire est un peu compliquée, je la résume vite fait. Cette année-là, David Byrne a tourné lui-même un film, moitié documentaire, moitié fiction, où il partait à la rencontre de divers personnages excentriques habitant au Texas. La source en avait été les unes de quotidiens qu'on trouvait en ce temps-là encore aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe encore, qui présentait comme vraies des histoires extravagantes du style une femme extraterrestre accouche dans un champ de maïs, des trucs comme ça. Remarquez, aujourd'hui, on trouve ça toutes les 10 minutes sur la toile si on cherche bien. Alors, il y a un album qui constitue la BO du film, mais aussi un autre qui s'appelle True Stories, faut pas confondre, et qui en fait est un album des Talking Heads interprétant certaines des chansons du film, à l'origine créées par d'autres interprètes. Mais enfin là, c'est David Byrne qui chante avec les Talking Heads Wild Wild Life. Et voilà, on se quitte avec le Wild Wild Life des Talking Heads en 1986. Il me reste à vous annoncer un concert exceptionnel de David Byrne. Ce sera le 3 juillet prochain à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Days Off. Un spectacle qu'il annonce comme particulièrement ambitieux. Il y aura 11 performeurs sur scène, pas de décor, pas d'amplification, pas d'estrade, 6 percussionnistes en lieu et place d'un batteur. Ça s'annonce comme quelque chose de très particulier. Et voilà, merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Nicolas Slimani à la technique, Romain Couturier à la discothèque de Radio France et Zora Ben Smiley pour le site internet. Tout de suite après les informations, vous retrouverez bien sûr Laurent Goumard et son nouveau rendez-vous. Quant à moi, je vous dis à lundi.